Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ?» Il parlait ainsi pour les mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par le plus âgé. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc ? Personne t'a condamné ?» Elle leur répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Et frères et sœurs, ce cinquième dimanche de carême nous invite à ne plus penser au passé, car le passé appartient au passé. Il nous invite, au contraire, à regarder devant nous. Les scribes et les pharisiens amènent à Jésus une femme qu'on avait surprise en flagrant d'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ?» Il parlait ainsi pour les mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais une question se pose. Où est l'homme ? Pourquoi la femme seule est-elle arrêtée ? Comment se fait-il qu'il n'amène que la femme? Dans un cas d'adultère, il y a aussi un homme que la loi juive en vigueur condamne de la même manière. Les juges, tous des hommes, se sont rués seulement sur cette femme. Jean devoit leur dessein. Au fond, ils veulent piéger Jésus. Osera-t-il exiger l'application immédiate de la loi et déclencher le lynchage? Beaucoup refusaient cette sentence extrême. Ou bien va-t-il déclarer la loi inopérante? En ce cas, on l'accuserait de bafouer un précepte capital. Alors, au milieu de tous ces hommes, écroulés de honte et d'effroi, la femme est enfermée dans le cercle de ses accusateurs. Que va répondre Jésus? En théorie, il y a la loi, un texte froid que l'on peut lire et proclamer, un règlement objectif qui prescrit tel châtiment pour telle infraction. Mais dans la réalité, il y a une personne qui, en effet, a commis une faute et qui se trouve devant d'autres personnes chargées de la juger, mais qui elles-mêmes sont fautives. Et mes frères, mes sœurs, au niveau légal, il y a un acte répréhensible, ici c'est l'adultère, et un livre où est écrit le châtiment, ici c'est la peine de mort. Mais dans la réalité, il y a une adultère, c'est-à-dire une femme qui un jour a commis ce péché, et il y a aussi des juges qui lisent l'écrit, mais qui sont des hommes qui ont certainement commis des fautes. Mais voilà, Jésus s'est abaissé et du doigt, il trace des traits sur le sol. Devant toutes ces faces tendues et haineuses, Jésus baisse son visage. Il refuse de regarder. Et en se penchant, on dirait qu'il voudrait rejoindre la victime étendue dans la poussière. Mais qu'écrit-il donc? Mes frères, mes sœurs, ce qui émeut dans cette histoire, c'est cette femme qui se sait être la coupable. Elle ne proteste pas. Elle attend son exécution comme le prescrit la loi. Étant donné la difficulté de cerner les responsabilités personnelles, si la loi a fonction de punir, peut-elle aller jusqu'à enlever la vie de quelqu'un? S'il est écrit « tel péché mérite la mort », peut-on en déduire « cette femme qui a commis ce péché doit mourir » Peut-on aujourd'hui supprimer l'avenir à quelqu'un qui a eu une faiblesse dans le passé? L'être humain se confond-il absolument avec son acte? D'ailleurs, n'est-il pas possible que l'amant, étrangement absent, soit le plus responsable? Et mes frères, mes sœurs, comment persister à l'interroger? Il se redressa et dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Disant cela, Jésus les renvoie à leur propre conscience. Il place ainsi le débat à un autre niveau. Nous sommes tous, toutes des pécheurs, et nous avons besoin d'être pardonnés. Les juges, lecteurs d'anciennes lois écrites, sont renvoyés à leur conscience, à leur faiblesse, et l'un de hurler contre cette sentence de Jésus, il semble l'accepter. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Frères et sœurs, c'est que l'interpellation de Jésus a porté. Aucun de ces hommes n'a osé ramasser une pierre. Aucun n'ose prétendre qu'il est sans péché. Aucun ne s'exclame que Jésus bafoue la loi. Alors, le cercle mortifère peu à peu éclate. Et voilà Jésus qui reste seul avec la femme en face de lui. Nous connaissons le commentaire de Saint Augustin qui disait « À la fin, il ne reste plus que la miséricorde et la misère, la maladie et le médecin, la tendresse et la faiblesse. » Car il est important de souligner que la femme, pendant toutes ces scènes, n'a rien dit. Paniquée, elle ne prétexte pas d'excuses, n'accuse ni son amant, ni son mari. Et Jésus joue à l'étonné. « Femme, où sont-ils donc? Alors personne t'a condamné ?»« Personne, Seigneur, » répond la femme. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Frères et sœurs, cette part de l'évangile de Jean nous enseigne que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Soyons donc miséricordieux, comme Dieu l'est envers nous. Ne nous posons pas en juge et ne serons pas jugés. Ne condamnons pas et ne serons pas condamnés. C'est la mesure dont nous servons pour les autres qui servira aussi de mesure pour nous. Et mes frères, mes sœurs, dans cette expérience unique qu'elle a vécue, cette femme a découvert qu'elle était aimée au-delà de son péché et donc elle était pardonnée. Nous sommes donc tous et toutes appelés à faire cette expérience du pardon de Dieu en recevant le sacrement de réconciliation. C'est là que nous rencontrons l'amour infini de Dieu, un amour qui sauve parce qu'il ne nous confond jamais avec nos péchés. Essayons, comme Jésus, de redonner un avenir à celles et à ceux que leurs péchés condamnaient à la mort spirituelle. Ne regardons pas le chemin déjà parcouru dans notre existence, Mais tournons notre regard vers celui qui reste à faire pour appartenir totalement au Christ. Frères et sœurs, la miséricorde n'est pas la bêtise qui s'aveugle sur les fautes, la suppression de la morale, encore la fin de la loi, le coup d'éponge facile, l'indifférence aux misères humaines. La miséricorde garde la loi, mais inscrite sur le sable, et là, la mémoire de nos actes les plus mauvais peut s'envoler au souffle de l'esprit. La miséricorde distingue péché et pécheur. Elle lit le livre de la loi qu'elle respecte, mais le refermant, elle offre le pardon de Dieu à celui ou à celle qui se reconnaît coupable. Va, car tu as fauté, c'est vrai. Mais avec moi, ton Sauveur, tu peux encore reprendre la vie. Ce sera difficile pour toi, dont le méfait est connu de tous, et pour ton amant, et pour ton époux, et pour tes proches, lui dit Jésus. Oui, il est béatifiant, mais parfois dur de vivre la miséricorde, car c'est tout le réseau de relations qui le remet en jeu. Et Jésus ajoute, « Et désormais, ne pêche plus. » Oui, tu as péché. La tentation sera encore là, mais le Seigneur te fait confiance. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va en paix. Et mes frères, mes sœurs, la miséricorde est une résurrection. Amen.